Julien Pierce.
Téléphone portable, montre connectée, enceinte intelligente, à commande vocale, reconnaissance faciale, la technologie est partout, la surveillance aussi. Pour en parler, Julien, votre invité, Olivier Tesquier, journaliste à Télérama, il publie aujourd'hui un livre à la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance aux éditions Premier Parallèle.
Bonjour Olivier Tesquier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Je dois vous avouer que j'ai lu votre livre hier, juste avant de me coucher. Résultat, j'ai pas fermé l'œil. Votre enquête est à la fois passionnante et effrayante. C'est quoi ce que vous appelez les nouveaux territoires de la surveillance ?
Alors en fait, il faut voir que ces sujets-là sur lesquels je bosse à peu près depuis une dizaine d'années ont beaucoup muté pendant ce laps de temps. Et en fait, j'ai vu l'évolution où on a vu l'irruption d'abord des grandes plateformes. On a vu l'irruption des Google, on a vu l'irruption des Facebook, des Amazon. Et puis aujourd'hui, on voit de nouvelles incises comme ça de la surveillance dans notre sphère privée, dans notre sphère intime. Ça se fait à travers l'imposition de la biométrie. Donc aujourd'hui, sa dernière mouture qui est la reconnaissance faciale. On voit aujourd'hui les assistants vocaux et la domotique en général qui envahissent notre domicile, notre intimité, et puis tout un tas d'outils, d'applications, d'objets qu'on porte sur soi, en soi presque parfois, qui viennent recomposer en profondeur nos existences.
Ce que vous nous dites en fait dans ce livre, c'est que la technologie, les appareils connectés, les réseaux sociaux, la reconnaissance faciale, vous venez de le dire, tout ça n'a qu'un seul but, c'est de compiler des données sur chacun d'entre nous.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu le sens du titre du livre. J'ai essayé de me poser la question de ce qui liait justement nos existences connectées à travers notamment par exemple l'objet smartphone qui est jamais qu'une espèce de version moderne de la montre qu'on porte comme ça en permanence sur soi et qui est tout autant une obligation d'être à l'heure, une obligation d'être joignable tout le temps et d'être soumis en permanence à un déluge de notifications et qui va jusqu'à reconfigurer assez profondément l'organisation de nos rapports sociaux.
Alors on le sait, les GAFAM comme on les appelle, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft compilent des données pour ensuite nous vendre des services, des produits. J'ai appris par ailleurs dans votre livre l'existence de courtiers en données, des data brokers, comme on dit en anglais. C'est quoi exactement ?
Alors, les courtiers en données, on a eu un assez bon exemple dans l'actualité il y a un peu moins de 2 ans avec le scandale Cambridge Analytica, donc cette espèce d'officine politique britannique qui a aidé Trump à remporter l'élection aux États-Unis et qui a aidé le camp du Brexit au Royaume-Uni et qui avait collecté de manière dû, et probablement illégal d'ailleurs, les informations de 87 millions de personnes sur Facebook. Alors Cambridge Analytica est un courtier en données d'un genre un peu particulier, mais symbolise assez bien tous ces acteurs clandestins qu'on visualise effectivement pas dans l'écosystème, dans le panorama comme ça des acteurs numériques.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'application, on les télécharge pas, on les connaît pas.
On les télécharge pas, on les connaît pas, ils n'ont pas pignon sur rue, ils n'ont pas vocation à être connus du grand public. Et donc ils achètent des données à des grandes plateformes, ils revendent des données à des grandes plateformes. Faut se dire que jusqu'au scandale Cambridge Analytica, justement, Facebook traitait avec tout un tas de courtiers en données qui sont souvent des entreprises de taille extrêmement conséquente, qui sont nées aux États-Unis dans l'après-guerre à peu près, et qui en fait sont chargées de classer la population en des catégories très très fines à des fins publicitaires. Et dans la mesure où aujourd'hui Google ou Facebook, pour ne citer que, sont de gigantesques régies publicitaires, qui sont comme des grosses chaudières dans lesquelles il faut remettre constamment du charbon. Ce charbon étant finalement les données de nos vies à nous, ils ont besoin de ces acteurs-là qui viennent comme ça s'intégrer au milieu
siphonner,
de la chaîne.
Siphonner nos informations.
Siphonner plus ou moins discrètement. C'est très difficile de savoir combien de data brokers, combien de courtiers en données possèdent des informations sur nous, de savoir quel est le degré de précision des informations qu'ils possèdent sur nous. Et c'est très difficile de faire rectifier ou effacer ces informations-là, ce qui peut donner l'impression que finalement il existe comme une sorte de double numérique, un profil recomposé de nos identités qui ne nous appartient plus.
Un data broker que tous les Français connaissent, c'est La Poste.
Oui, c'est un assez bon exemple de ce qu'est un courtier en données, c'est-à-dire qu'on voit l'activité classique de La Poste, de courrier ou de banque, et on figure beaucoup moins qu'à travers toutes les informations que La Poste collecte à travers cette activité-là, ça lui offre une position, structurellement dominatrice sur ce marché-là, puisqu'elle possède tout un tas d'informations personnelles qu'elle peut ensuite monnayer à tout un tas d'acteurs, et notamment des acteurs numériques. à des fins à la fois encore de ciblage publicitaire, mais qui peuvent servir à bien d'autres finalités.
Ce qui fait que, au final, ça ne sert pas à grand chose de supprimer son compte Facebook ou Instagram, puisque derrière, ces courtiers sont capables de reconstituer nos profils. Est-ce que tout ça, au final, ne nous enferme pas dans une forme de déterminisme, puisqu'on n'a plus la possibilité de disparaître?
C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, et notamment ces dernières années, on l'a revu avec le scandale Cambridge Analytica, de campagnes, de départs plus ou moins durables, plus ou moins momentanées de Facebook. Mais comme vous le disiez, ça change pas grand-chose au problème, dans la mesure où les courtiers en données ou d'autres acteurs sont tout à fait capables de reconstituer des profils, y compris de gens qui ne sont pas sur Facebook. Facebook a eu pendant des années qu'il y avoir des profils fantômes d'utilisateurs non inscrits de la plateforme. Et donc, effectivement, il faut se rendre compte que ces petits accommodements raisonnables, entre guillemets, avec cette surveillance routinière et quotidienne, peuvent pas suffire pour contester le changement de paradigme un peu et le changement de société qui est en train de se jouer à travers ce que certains, notamment une chercheuse aux États-Unis qui s'appelle Susan Azoubov, appellent le capitalisme de surveillance.
Il y a une autre donnée que j'ai apprise dans votre livre, c'est le rôle des États dans tout ça. Ils sont complices, acteurs de cette surveillance généralisée. Ils s'acoquinent avec les réseaux sociaux.
Il faut dire que pendant des années, notamment il y a encore une dizaine d'années, ou un peu plus, on pouvait se dire que finalement, les émanations de la surveillance étaient des émanations publiques. On parlait de fichiers, on parlait de programmes d'État, etc. Et avec l'affaire Snowden, notamment, en 2013, on s'est rendu compte non seulement des pouvoirs gigantesques et très intrusifs de la NSA, donc l'Agence de renseignement électronique américaine, mais on s'est surtout rendu compte de la coopération entre ce milieu du renseignement et les plateformes privées, qui deviennent des espèces d'agences de renseignement bis.
Et d'ailleurs, c'est quasiment pas caché, puisqu'il y a des cadres de ces plateformes qui vont ensuite travailler à la NSA et inversement.
Absolument, il y a un système de va-et-vient, on va dire, entre le public et le privé qui est assez assumé. La directrice juridique de Facebook a contribué à la rédaction du Patriot Act, qui est le texte sécuritaire qui a été voté aux États-Unis après le 11 septembre. Mais il faut voir que aujourd'hui, par rapport à tous ces sujets, on parle beaucoup de la nécessité de régulation et donc du rôle que pourraient jouer les États dans l'imposition de règles pour éviter justement de donner beaucoup trop de pouvoir à ces plateformes-là.
Avec l'arrivée prochainement de toutes les données biométriques, de la reconnaissance faciale qui est expérimentée en Chine, notamment avec un système qui fait froid dans le dos, de crédit social. Malheureusement, on n'a pas le temps de le développer davantage. Je voudrais vous remercier, Olivier Tesquet, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre qui sort aujourd'hui, À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance. C'est aux éditions Premier Parallèle et c'est passionnant. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Sur Europe 1.